Laudetur Jesus Christus.
Les Européens réunis à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à l'Ukraine. Les dirigeants sont en train d'arriver. Le ton général est à la mobilisation pour soutenir Kiev face à la Russie. Nous reviendrons sur les enjeux de cette réunion. Si les gouvernements européens semblent prêts à faire des efforts pour aider l'Ukraine, les Européens, eux, nourrissent des sentiments plus ambivalents, surtout à l'encontre des réfugiés ukrainiens. Exemple en Pologne. Les Serbes de Bosnie remettent en cause les institutions générales de Bosnie. Leur chef entend bien contrôler ainsi la police et la justice, dépouillant les autorités centrales de leurs prérogatives. L'aide internationale, mise à mal par la politique de Donald Trump, l'ONU tente de pallier le retrait américain. Elle veut débloquer plus de 100 millions d'euros en faveur des 10 crises les plus négligées du globe.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, et tout d'abord un point sur la santé du pape qui a passé une nuit tranquille, bénéficiant de la ventilation mécanique non invasive pendant toute la nuit. Ce matin, l'oxygénation à haut débit via des canules nasales a pris le relais. François, ce matin, poursuivit par ailleurs ses thérapies, dont la physiothérapie motrice. La salle de presse du Saint-Siège fera un point officiel ce soir aux alentours de 19h, comme tous les jours. La guerre en Ukraine et les grandes manœuvres diplomatiques voulant éviter d'être mis sur la touche et de subir les décisions prises à Washington ou à Moscou, les pays membres de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet extraordinaire en présence du président ukrainien. Volodymyr Zelensky, à son arrivée, a remercié les Européens, affirmant que les Ukrainiens ne sont pas seuls et qu'il ne fallait pas relâcher la pression exercée sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre. Il était aux côtés de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui elle a affirmé que l'Europe et l'Ukraine étaient à un moment décisif. Alors, quels sont les enjeux de ce sommet à Bruxelles, Jean-Jacques Héry?
L'Union européenne doit maintenant assumer sa défense par elle-même et pour elle-même sur le long terme. Au sein des 27, tout le monde est à peu près d'accord. Cela nécessite évidemment des moyens et le plan de réarmement annoncé mardi par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, doit guider cet effort. Les 27 y sont plutôt favorables et en discuteront aujourd'hui. Au total, grâce entre autres à un prêt aux États membres de 150 milliards d'euros garantis sur le budget européen ou encore à la réorientation de fonds européens déjà budgétés, la Commission espère mobiliser 800 milliards d'euros. Les règles budgétaires européennes seront d'ailleurs assouplies pour permettre aux États de dépenser plus et plus vite pour se réarmer, avec des incitations aux achats groupés pour réduire les coûts. Les 27 identifieront également les secteurs industriels où il faudra investir en priorité. On les connaît déjà plus ou moins. Il s'agit de la défense antiaérienne, des drones et des systèmes anti-drones ou encore de l'intelligence artificielle. La question ukrainienne, elle, s'inscrit en miroir de ce réarmement, explique une source diplomatique européenne. Les conclusions du sommet devraient faire apparaître noir sur blanc la volonté de l'UE de continuer à soutenir l'Ukraine et de l'aider à obtenir des garanties de sécurité solides et durables pour une paix. Jean-Jacques Héry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
L'un des enjeux pour parvenir à une paix, c'est aussi de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité. Outre la France et le Royaume-Uni, la Turquie est prête à déployer des troupes sur le territoire ukrainien si nécessaire. C'est ce qu'a annoncé ce matin Ankara. Moscou, évidemment, regarde tous ces mouvements avec attention. Le ministre russe des Affaires étrangères s'est exprimé il y a peu. Sergueï Lavrov rejette toute possibilité d'un accord sur le déploiement de troupes européennes de maintien de la paix. Il considère aussi que la rhétorique nucléaire française présentée hier soir par le président Emmanuel Macron était une menace. Il a estimé que les propos concernant une attaque russe de l'Europe étaient absurdes et délirants. Sa porte-parole a ajouté qu'il était, en parlant donc du président français, déconnecté de la réalité. Les gouvernements européens se mobilisent, on l'a vu, pour l'Ukraine, mais cela contraste parfois avec la manière dont les réfugiés ukrainiens sont acceptés alors que la guerre se prolonge. Exemple en Pologne, qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés par habitant et qui commence à se lasser. En pleine campagne présidentielle, certains candidats n'hésitent même pas à instrumentaliser ce changement d'attitude en promettant de suspendre notamment les allocations familiales aux Ukrainiens sans emploi. Mais en Basse-Silésie, la forte concentration de réfugiés représente-t-elle en réalité une chance pour le développement économique de cette région industrielle. Reportage d'Adrien Sarla dans la petite ville d'Ovava qui emploie la plus grande proportion de travailleurs ukrainiens du pays.
Dans son agence de traduction, Agnieszka travaille au contact des Ukrainiens au quotidien depuis 3 ans et dit aujourd'hui avoir le sentiment de faire face à des privilégiés.
Selon moi, les allocations familiales devraient être réservées aux gens qui travaillent, que ce soit des Polonais ou des Ukrainiens. Le gouvernement a raison de vouloir arrêter de les donner aux réfugiés sans condition. Je pense qu'il y a tellement de place sur le marché du travail que ça ne devrait pas être un problème.
Mais avoir un emploi suffit rarement pour les réfugiés. Nina a fui Mykolaïv avec ses 5 enfants 2 semaines après le début de la guerre. Son salaire de 750 euros gagné en faisant le ménage dans une école ne suffit même pas à couvrir son loyer, qui lui en coûte 900.
En plus de mon travail officiel, je fais des ménages, je prépare des plats à la demande, je travaille dans les jardins. Le soir, quand je rentre, les enfants dorment déjà. Et quand je repars le matin, ils dorment encore.
Pour elle, comme pour de nombreux autres réfugiés, ces aides de l'État sont un complément de salaire absolument indispensable. Dans son agence de recrutement, Katagina s'occupe de leur trouver un emploi dans les nombreuses usines de la région, à des postes souvent difficiles et boudés par les Polonais.
J'ai vu à quel point la Pologne s'est développée grâce à eux. Ils travaillent avec nous, ils ouvrent leurs propres entreprises. Je ne pense pas qu'ils représentent une quelconque charge pour les Polonais.
96% des Polonais se déclarent aujourd'hui favorables à la réduction, voire à la suspension totale des aides pour les Ukrainiens sans emploi. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican.
Le chef des Serbes de Bosnie rejette l'autorité de la police et de la justice centrale. Milorad Dodic a promulgué hier une loi en ce sens. Depuis la fin de la guerre de Bosnie en 1995, le pays est divisé en 2 entités, la République serbe et la Fédération croato-bosniaque. La décision du président de l'entité serbe pourrait représenter une menace pour l'intégrité du pays. Explication à Belgrade de Laurent Rouy.
La fuite en avant séparatiste de Milorad Dodik, président de l'entité serbe de Bosnie, a franchi une nouvelle étape hier soir. Dodik a signé des lois d'interdiction de la justice et de la police fédérale bosniaque sur le territoire qu'il contrôle, une décision qualifiée de coup d'État par son propre vice-président. Depuis le début de la crise, plusieurs politiciens serbes de Bosnie se désolidarisent de Milorad Dodik. Il y a 8 jours, Dodik était condamné à 1 an de prison et à 6 ans d'interdiction d'exercer la politique pour s'être opposé au tribunal constitutionnel de Bosnie. Depuis, il tente à marche forcée de couper les ponts entre l'entité fédérale serbe, la Republika Srpska, et la Bosnie. Au pouvoir depuis 18 ans, Dodik a toujours promu la sécession de la Republika Srpska, sans jamais oser franchir le pas. Mais il utilisait systématiquement ses pouvoirs pour bloquer le fonctionnement de l'État central. Depuis que sa condamnation lui a fermé toute porte de sortie, il pousse sa logique séparatiste aussi loin que possible. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
Donald Trump n'hésite pas à menacer le Hamas. Dans un message publié sur son réseau social, le président américain se montre direct. Au peuple de Gaza, un bel avenir vous attend, mais pas si vous gardez des otages. Si vous le faites, vous êtes mort. Prenez une bonne décision, a-t-il écrit. Il a précisé qu'il envoyait à Israël tout ce dont il avait besoin pour finir par ailleurs le travail à Gaza. C'est maintenant qu'il faut quitter Gaza, tant que vous pouvez encore le faire, a-t-il ajouté à l'adresse cette fois des chefs du mouvement islamiste palestinien. Par ailleurs, le Hamas a confirmé avoir eu des contacts directs avec l'émissaire de Washington pour la libération donc de ces otages américains retenus dans la bande de Gaza. L'ONU entend pallier au manque de l'aide humanitaire américaine dans le monde. Les Nations Unies annoncent ainsi débloquer un peu plus de 100 millions d'euros pour renforcer l'assistance vitale dans les 10 crises les plus négligées dans le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Marine Henriot.
Oui Xavier, on sait déjà que 1/3 de ce montant ira directement au Soudan, qui connaît la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies, ainsi qu'au Tchad, le pays voisin donc qui accueille des réfugiés soudanais. Ces fonds d'urgence iront aussi en Afghanistan, en République centrafricaine, au Honduras, et doivent servir, précise aussi l'ONU, à protéger les populations vulnérables aux chocs climatiques. Il faut savoir, Xavier, qu'en 2025, la survie de plus de 300 millions de personnes dépend directement de l'aide humanitaire mondiale. Et le plus gros pourvoyeur de cette aide, et de loin, c'était jusqu'ici les États-Unis. Mais vous vous souvenez, le jour de son investiture, le président américain Donald Trump avait signé ce décret pour stopper le versement de l'aide. Nous parlons de près de 2 milliards de dollars. Ceci dit, hier, la Cour suprême américaine a ordonné à l'administration Trump de reprendre ses versements. Mais en attendant, la bataille juridique, des vies sont menacées. Par exemple, hier, l'OMS annonçait que le gel des versements américains dans la lutte contre la tuberculose menaçait d'anéantir les progrès durement acquis et mettait en danger la vie de millions de personnes.
Marine Henriot, le Conseil de sécurité de l'ONU fait état de sa profonde inquiétude après la signature en février par les paramilitaires au Soudan d'une charte en vue de former un gouvernement parallèle dans ce pays ravagé par la guerre. Le conflit qui oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise au FSR a fait des dizaines de milliers de morts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.